sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.
20h03 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de l'antenne. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport en ce mardi 25 juillet 2023. Dans un an et un jour, ce sera le début des Jeux Olympiques de Paris 2024. On a déjà hâte évidemment d'y être, mais avant ça, évidemment, il y a toute l'actualité sportive, locale et internationale qui nous intéresse. Et c'est sur ce quoi nous allons nous pencher dans cette émission. À mes côtés, l'incontournable Cédric, qui est vêtu d'un très beau maillot du Stade Toulousain, le club de rugby. Salut Cédric, comment ça va ?
Salut tout le monde. Bah écoute, on a enfin récupéré du week-end de marathon.
Oui, c'est vrai. Alors comment ça s'est passé ?
Bah écoute, raconte-nous. Ça s'est super bien passé, hein, puisque en moins de 24 heures, le seuil des 5000 euros était atteint.
Ok.
Qui était donc l'objectif de base. Donc ça a mis du baume au cœur à tout le monde.
Bien sûr.
Et au final, la cagnotte a été plus loin qu'on pensait, hein, puisque ouais, on a dépassé les 8000 euros.
Ah oui, quand même.
Ouais, 8306 et 68 centimes. Donc en 3 jours, on va dire, c'est très beau, hein, pour une première en plus.
Bah oui, carrément.
Voilà, je rappelle, on était une cinquantaine de personnes à streamer. Il y a eu un très beau relais là-dessus. L'événement a toujours continué. Il y a toujours eu au moins une personne, voilà, en live. Donc ça y a joué aussi. Et puis, c'est un travail d'équipe, hein, parce qu'il y avait tous les modérateurs du Discord ou des chaînes, voilà, qui étaient aussi là en soutien. Plus les gens qui sont venus nous voir, qui n'ont pas forcément fait des dons, mais qui en ont parlé. Donc,
ouais,
il y a une belle chaîne de solidarité qui s'est mise en place. De mon côté, moi, tu vois, ça a été à peu près 30 heures de stream en 3 jours.
Ok, pas mal quand même.
Ouais, je peux dire que le dernier jour, j'ai fait mon premier 12 heures.
Tu l'as senti passer, quoi.
J'étais content de m'arrêter, parce que 12h30 exact, t'es sur la fin, t'as plus de réflexes vraiment quand tu joues. Enfin, mais non, c'était intéressant. Il y a eu pas mal de petites choses de fait, des donation goals réussis de mon côté. Donc,
ok, cool.
Après, voilà. Point de vue cagnotte personnelle, voilà, j'ai contribué, voilà, à peu près à la hauteur de 60 euros, donc ce qui est
déjà pas mal,
voilà. Tout le monde a au moins eu 1 euro dans sa cagnotte, donc ça aussi, c'est cool pour au moins encourager les gens, voilà.
Bien sûr. Et du coup, donc tu as dit à peu près 8000 euros?
8000
pour l'association.
Ouais, 8306 euros.
Pour une association qui, tu parlais, qui est dédié
à la protection et aux
des animaux,
des chats plus précisément.
Okay,
ouais,
des chats, okay.
Donc tout ce qui est recueil de chats, de chatons, Donc ça inclut les soins, les vaccinations, les frais de d'opération des fois.
Ouais.
Voilà, les croquettes et plein d'autres choses, frais administratifs aussi, hein, forcément pour une association. Enfin. Donc voilà. Un bon week-end, ouais, ouais, ça. Ouais.
T'as quand même eu le temps de te pencher un peu sur le sport ou...
J'ai jeté des petits coups d'œil, le samedi, voilà, j'ai eu un temps plus calme, donc j'ai pu voir un peu le match de l'équipe de France féminin.
Dimanche. Tu t'es un peu perdu, quoi.
J'ai vu un peu le Grand Prix, mais bon, par, je picorais, quoi, dedans.
Ouais.
Bon, après, pas un Grand Prix exceptionnel, apparemment, d'après ce que j'ai pu lire. Puis voilà, quoi. Après j'ai essayé de regarder un petit peu les news à droite à gauche, mais on était focus.
Focus évidemment sur les objectifs de dons pour ce petit marathon caritatif. On peut dire comme ça. Alors donc pour revenir à l'émission, au sommaire, on va parler un petit peu des petites infos locales. Alors on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais on va préparer un peu la saison qui arrive avec certaines nouvelles qui sont arrivées dans la semaine. Et puis le gros de l'émission va se passer au niveau international avec des bons résultats, notamment côté français. On va parler de natation, de même de waterpolo et d'escrime. On reviendra un petit peu sur les JO justement qui vont bientôt, enfin dans un an, arriver. On vous prévoit potentiellement une émission la semaine prochaine dédiée justement à ces Jeux Olympiques. Donc voilà, on vous en reparlera un petit peu. Et puis au niveau football, on aura de la matière avec cette Coupe du Monde féminine et ce premier match des Bleus qui a eu lieu dimanche, comme tu le disais Cédric, et le Mercato qui est très agité, notamment avec, vous avez peut-être entendu parler d'un certain Mbappé qui fait parler de lui sur ce marché des transferts. Et puis on débriefera un petit peu le Tour de France, et tout en parlant également du Tour de France féminin. Et puis comme tu le disais Cédric, il y a eu un Grand Prix ce week-end et on reviendra un petit peu dessus. Voilà pour le sommaire. On va pouvoir commencer sans plus tarder avec l'actualité autour du SCO d'Angers. Vous le savez, les SCOistes qui repartent la Ligue 2, enfin qui repartent en Ligue 2 et qui vont donc, voilà, espérer jouer les premiers rôles sur sur ce championnat de deuxième division. Alors le mercato, il était assez calme quand même, avec seulement une arrivée, celle de Jordan Lefort en provenance du Paris FC. Il y a une deuxième recrue qui vient d'un club de Ligue 2, d'un ancien club de Ligue 2 maintenant, c'est Joseph Lopi qui vient de Sochaux. Sochaux qui, on rappelle, a été proche de déposer le bilan et qui normalement repartira soit en National 1, soit en National 3. En tout cas, voilà, Joseph Lopi, milieu de terrain défensif sénégalais de 31 ans qui vient donc un petit peu garnir cet entrejeu angevin, en sachant que dans le même temps Nabil Bentaleb, on l'avait dit, est parti du côté de Lille, hein, lui qui vient du Nord, mais il y a eu des complications pour sa visite médicale. Alors c'est pas complètement terminé d'un côté comme de l'autre, mais voilà, rien n'est fait pour l'instant, pas de nouvelles depuis, mais en tout cas il y a eu quelques complications au niveau de la visite médicale.
Tu sais c'est de quel ordre ou pas?
Non, bah justement apparemment les différentes infos parlent de un problème médical, sans en dire plus un petit peu sur ce qui s'est passé réellement, mais c'est vrai que bon le joueur quand même devrait partir, que ce soit à Lille ou ailleurs. Donc voilà, ça reste un dossier intéressant à suivre pour le SCO.
C'est toujours surprenant, je trouve, quand il passe les prévisites médicales, en fait, comme ça.
Ouais, ouais.
De découvrir que la personne a des problèmes de santé, souvent des problèmes cardiaques ou des choses comme ça, ou des insuffisances respiratoires.
Ouais, ou des problèmes au genou, des trucs comme ça, ouais.
Encore en genou, j'ai envie de dire, tu vois, ça, c'est normal, tu vois, quand t'es fouteux, tu vois, c'est les articulations qui sont sollicitées, mais ouais. Tu vois, des problèmes comme ça cardiaques, où ils sont quand même suivis tout au long de la saison.
Ouais.
On détecte rien, et puis là, quand il s'agit de transfert,
ouais, c'est vrai que
on découvre des choses. Je sais pas si les tests sont faits, enfin, les visites médicales sont beaucoup plus poussées pour ce genre de transfert ou.
Ouais. En tout cas, voilà. Il y a peut-être un Algérien qui pourrait en tout cas pourrait quitter le club, c'est Imad Abdelli qui a plusieurs prétendants, notamment en Italie, avec trois clubs qui sont intéressés pour le milieu offensif algérien. Donc dossier à suivre, on espère que le SCO va pouvoir le conserver cette saison puisqu'il a fait une très bonne fin de saison et puis il effectue actuellement une très bonne préparation. La préparation justement qui se passe plutôt correctement pour les SCOistes, sans gros résultats mais sans grosse claque non plus. Il y a une victoire cette semaine 2-1 contre Le Mans, club de National 1, et une défaite 1-0 contre Nantes avec un but sur pénalty de Mohamed. Voilà, un club de Ligue 1. Donc on suivra ce qui va se passer du côté des Angevins. Il y a un dernier match amical. Mais d'ailleurs, je crois qu'il est à domicile.
C'est le fameux match qui aurait dû être à domicile, mais
c'est ça. Qui va être joué à Niort, donc, ouais. Entre Angers et Bordeaux. Et la semaine d'après, ce sera le début, enfin, de cette saison de Ligue 2 avec le premier match du SCO à venir. Donc, voilà pour le SCO. Voilà, rien à se mettre sous la dent. Est-ce que c'est un petit peu inquiétant quand même de voir qu'on n'est pas tellement actif sur le marché de transfert, qu'il n'y a pas de bons coups, ou alors toi tu dis, bon, l'effectif il est pas mal comme il est?
J'ai logique. Le club se refasse un peu financièrement, je pense.
Ouais.
Alors, le fait de descendre, ça a quand même un gros coût.
Ils vont plus miser sur la formation.
Ouais, je pense que c'est le bon plan pour. De toute façon, faut pas se leurrer. Hein. Je pense qu'on y est pour quelques années en Ligue 2, hein, le temps de se refaire une équipe. Voilà. Donc c'est pour ça, s'ils jouent la carte des jeunes et qu'il y a du sérieux, voilà, dans le recrutement à côté, qu'on prend vraiment des joueurs qui peuvent être utiles par leur expérience et pas parce qu'ils sont en manque de jeu ou des choses comme ça. Enfin, l'un n'est pas compatible avec l'autre, mais faudrait pas prendre des mercenaires au final qui viennent juste se relancer à Angers et puis repartir en février, enfin au mercato d'hiver, qui soit déjà sollicité pour repartir ailleurs. Enfin, voilà.
Ouais.
Je pense qu'il faut vraiment tabler sur la continuité. Donc, en soi, qu'on fasse pas un gros mercato. En arrivée, c'est pas surprenant. Par contre, j'espère qu'on a bien dégraissé aussi.
Ouais.
J'ai pas l'impression que sur les postes où on aurait aimé dégraisser, ça soit forcément bien entamé, quoi. Bah, notamment sur le nombre de gardiens qu'on a. Enfin.
Ouais. Mais ouais, quand tu dis les postes, mais c'est aussi surtout il y avait des joueurs qui étaient ciblés, qui avaient une valeur marchande importante, comme Bentaleb, comme aussi Baptiste Amendi, le jeune joueur angevin, et puis notamment Paul Bernardoni, où c'est des, enfin en tout cas tout ça c'est des joueurs dont on n'a pas la nouvelle, enfin on n'a pas de nouvelles sur des rumeurs.
Pour l'instant,
ils sont sous contrat, quoi.
Ils sont sous contrat et le problème c'est qu'ils restent
un gros mois.
C'est un mois encore.
Ouais, il reste un gros mois. Ouais.
D'accord, je savais plus si c'était jusqu'au début août le mercato.
Ah non, c'est début septembre.
C'est début septembre, donc ouais, il y a pas encore trop d'inquiétude là-dessus, mais bon.
Ouais.
On sait que le prochain mois, normalement, ça va être plutôt calme. Généralement, c'est vraiment les gros transferts qui vont se faire à la dernière minute ou des choses comme ça. Mais
bah, de toute façon, ils auront le temps aussi de voir comment ça se passait sur les premiers matchs en Ligue 2.
Oui.
Pour pouvoir potentiellement ajuster s'il y a des problèmes. Voilà pour le SCO. Maintenant, on va parler un petit peu basket avec l'UFAB et l'EAB. Pour l'UFAB, ça concerne plutôt des joueuses du club avec Leïla Lacan et Cindy Perdrio qui jouaient la Coupe du Monde U19 avec l'équipe de France. Elles se sont inclinées en demi-finale contre les USA 80-57. Et donc, elles ont également perdu le match pour la troisième place. Elles terminent donc quatrième de la compétition. Mais Leïla Lacan termine quand même dans le 5 majeur de la compétition, ce qui est quand même assez énorme pour la jeune joueuse angevine qui montre que en fait elle gravit des échelons petit à petit et qu'elle répond toujours présente, notamment quand elle avait été appelée chez l'équipe de France A. Donc c'est positif évidemment pour la joueuse angevine.
Maintenant du repos.
Maintenant oui, il va falloir qu'elle se repose avant d'aborder la saison avec l'UFAB. On va parler maintenant un peu de l'EAB avec quelques dates à donner sur la reprise puisque je pense que la Coupe du Monde de basket qui arrive très bientôt perturbe un petit peu les calendriers, notamment des championnats français, puisque la Pro B, la saison régulière de Pro B, ne va reprendre que le 13 octobre. Le premier match sera contre Fos-sur-Mer, qui est un club relégué de Betclic Elite, donc ce sera déjà un gros morceau. Et puis sinon, ils reprendront un peu plus tôt à la mi-septembre avec la Leaders Cup, dont ils sont tenants en titre, avec Orléans puis Nantes les 16 et 22 septembre prochains, et puis également la Coupe de France le 20 septembre contre Chartres. Donc voilà, ça va être déjà des compétitions à bien gérer, à bien négocier pour le AB.
En Coupe de France, il y a peut-être moyen de profiter d'absence au niveau de l'équipe de Chartres. Je sais pas s'ils ont des joueurs qui vont en équipe de France.
Je sais pas trop, mais plus globalement, sur le reste de la compétition, potentiellement, Betclic Elite sera peut-être le cas.
Ouais.
À voir.
Bah, à voir, parce que voilà, tout
est relatif.
Faudra voir si on fait un petit tour et puis s'en vont.
C'est ça.
Ou si on va plus loin, effectivement.
On s'enflamme pas trop. Petit résultat également de tennis de table avec les Loups d'Angers. Il y a un petit jeune qui a plutôt brillé lors des championnats d'Europe cadets. C'est Nathan Pilar. C'est ni plus ni moins que le fils de l'entraîneur David Pilar, l'entraîneur de l'équipe professionnelle des Loups d'Angers. Il a été donc sacré champion d'Europe du double mixte. Et également médaille de bronze par équipe. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour le club angevin. Notez que Matteo Boyas, qui est sur de l'handisport et qui est également au danger, va disputer prochainement les championnats d'Europe. Voilà pour ce que je pouvais dire pour
ça
le.
Ça peut être intéressant, pas forcément pour ces JO-là, mais dans 4 ans.
Pour lequel? Boyas ou Pilar?
Pour Pilar.
Pour Pilar, oui. 15 ans, c'est vrai que c'est.
Oui, non.
Mais Boyas, on l'attendra évidemment pour les Paralympiques.
Pour les Paralympiques, oui, je pense.
Voilà. Ça, c'est clair que il avait déjà gagné une médaille il y a quelques temps. Voilà pour le sport local. Je sais pas si tu as d'autres infos, Cédric a donné, ou d'autres avis. Parce que c'est vrai que c'est un peu calme là.
Je sais qu'il y a eu des renforts et des départs au niveau des éducs.
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a eu 2 annonces. Ça a été notamment des prolongations.
Ouais, il y a des prolongations. C'était la semaine dernière, je crois qu'il y a eu une annonce de départ.
Ouais.
J'ai plus en tête qui. Je sais que oui, il y a eu un recrutement aussi. Enfin. Et on est à 50, enfin un peu moins maintenant, mais à 50 jours de.
C'est ça, à 50 jours.
De la reprise aussi de la Magnus, quoi.
Donc évidemment, on a hâte de retrouver nos ducs à l'Ice Park. Alors oui, il y a donc 2 prolongations. C'est Kylian Fauvel qui va être donc sous les couleurs des ducs, en collaboration également avec les Dogs de Cholet. Voilà, qui évolue en division 1. Et également la prolongation de Baptiste Couturier qui va pouvoir voilà continuer aussi avec... avec l'équipe des Ducs d'Angers. Voilà, on est complet sur tout ce qu'on pouvait dire sur le sport local. On va faire une pause musicale, on va s'écouter Laylo et Nekfeu avec le titre spécial, et puis on va se retrouver juste après.
Faire la guerre parce que des wow. Faut faire la monnaie fort très très vite. Tu sens de tout niquer rétrécisse. Mais tu t'emballes et t'es intrépide. Tu ne veux jamais faire comme les autres. Mais des fois tu le fais pour tuer le time. Des petits bails, un peu de détails. Même si tu sais que tu vaux mieux que ça. Négro t'es spécial. Négro t'es la suite. Qui peut tout changer. Qui peut mettre les moves à la mode. Que des niques ta mère. Très peu pour toi les diamants. Donc oh, t'es tout seul dans le Viano. Bien sûr que t'as le mort, bien sûr que ça va pas mentalement. Bien sûr que t'es plus le même, ils savent pas de quoi t'es capable, mais moi, I know. Que t'es space, t'es différent, toi t'es spécial. Hey.
Spécial. T'as un normal dans ce monde, toi je suis spécial. Donc
j'abaisse mon niveau. Comme un goldfish dans le bocal. Envie de romance, mais y'a personne qui vaut. Même en famille, j'ai des blocages, mais dans la vraie vie. Flow calme, toujours méfiant devant un plan cash. Premier feu fit, flingue dans le local. Rec par PLK, 10 ans à l'occasion. Vision, hélico longue et la focale. Mensonge sur la langue de l'avocat. Perdre l'envie de l'avenir sur un claquage. Perdre la vie sur un plaquage. Que deviendront nos types? Même moi, j'ai pas de bon diplôme. Pour comprendre leur motiplan, lis le monde diplôme et le bon diplôme. Un frère aide un frère quand il peut. Je laisse ouvert la fenêtre quand il pleut. On séchera sur la moquette comme des vieux chiens mouillés au coin du feu. Se chamailler, se battre, ne jamais les décevoir. Ceux avec qui je passais l'été sous le bat. Les seuls qui m'ont prêté des vrais se battent quand c'était spécial.
C'était Laylo et Nekfeu pour le titre spécial. On est de retour dans Génération Sport. Vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM ou bien sur le site internet www.radio-g.fr. On est ravis d'être avec vous jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive. On a évoqué le local, on va maintenant passer à l'international avec pas mal de choses à dire. On l'a dit en début d'émission, il y a dans un an et un jour, les JO de Paris 2024 vont débuter. Ça va être assez grandiose en termes de sport, ça va être assez intéressant. J'ai envie de dire, c'est vrai qu'on vit ça qu'une fois dans une vie. Donc c'est quand même, ce sera quand même un événement qu'on voudra suivre avec importance. Donc comme je le disais aussi, on va préparer une émission spéciale donc à un an des Jeux la semaine prochaine, puisque voilà, là on n'y est pas encore. Donc on prépare ça, on va essayer de revenir avec vous, chers auditeurs, sur les chances de médailles sur certains sports, sur tout ce qui va se passer, les lieux importants de la ville, et puis voilà, on suivra tout ça et ce sera vraiment dédié à ça. Puis aussi les athlètes en juin qui pourront peut-être choper des médailles. Donc ce sera à suivre évidemment la semaine prochaine, mardi 1er août, et il y aura également le retour de Faustin qui nous fera le plaisir d'être là.
C'est vrai que, enfin, voilà, t'as pas connu encore les JO en France, mais pour les gens de ma génération et celle d'avant,
les Jeux d'hiver.
Il y en a eu les Jeux d'hiver, voilà, à Albertville.
Albertville, 92.
En 92.
12? Est-ce que je dis une bêtise?
Non, 92, c'est Barcelone.
Ah bah oui, je suis bête. Donc, 94?
94.
Attends, petit coup de Google.
94, c'est, je crois au Japon, c'est Nagano.
Ouais.
Donc ce serait
Albertville.
90.
C'est 92. À mon avis, ils étaient donc la même année que.
Il y a eu Barcelone.
Barcelone, c'est vrai que c'est 92.
Ouais, maintenant j'ai des doutes, mais.
Oui, parce qu'après 96, Atlanta, 2000, Sydney. Athènes.
Ouais, il
doit y avoir deux années qui
sont en Twitch, voilà, ouais.
En tout cas, voilà. Et, pour parler un peu de ça, en 2030, potentiellement, c'est la Savoie en général qui va déposer une candidature pour les JO de 2030. Ça parle notamment de Chamonix. Mais en tout cas,
ça parlerait aussi de réutiliser, en fait, déjà les équipements conservés pour Albertville.
Ouais, c'est
notamment,
ça.
Piste, par exemple, de bobsleigh qui serait remis un peu
de toute façon, voilà, on sait que les Alpes françaises sont connues pour avoir de très belles infrastructures. On sait qu'aussi le gouvernement a potentiellement validé la piste pour cette candidature, parce qu'on sait aussi que c'est eux qui mettront la main à la poche sur cette candidature. Donc ce sera intéressant à suivre, voir si on peut pas accueillir en intervalle de 6 ans deux éditions des Jeux Olympiques d'été et d'hiver.
Oui, puisque c'est moins gênant qu'à une époque où le COJO préférait vraiment alterner là, par exemple, donc en 2024 ça se passe en Europe, ça se passe en France.
Ouais. C'est du coup le CIO, je pense.
Ou c'est le CIO, du coup. En tout cas,
le COJO, c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques.
En tout cas, c'est un des deux.
Ouais.
Qui préférait qu'il y ait une alternance, par rapport aux pays qui accueillent et puis les régions. histoire que ça tourne plus. Maintenant, c'est un peu plus désuet, c'est cette façon de penser.
Surtout que là,
c'est plus les candidatures qui sont mises en place. Si par exemple là, on aurait pu demander de les avoir dès après 2024.
Ouais. Bah déjà surtout que là, on a enchaîné quand même Pyeongchang. C'est ça, c'est Pyeongchang.
Ouais.
Ouais, c'est Pyongyang ou Pyeongchang.
Les deux, je dis quoi, de toute façon.
Bah non, parce que du coup, il y a une, c'est une ville de Corée du Sud, et une ville, c'est la capitale de la Corée du Nord, donc faut pas se tromper. Je crois que c'est Pyeongchang. Pyeongchang qui a donc en 2018 a accueilli, et puis derrière c'était Pékin qui était quand même pas si loin,
ouais,
en 2022. 2026, on sait que ce sera Milan, Cortina d'Ampezzo,
ouais,
et c'est les Alpes en fait. Et du coup, au final, en 2030, ce sera aussi potentiellement les Alpes. Pour le coup française, donc on verra ça pour les JO d'hiver. En tout cas, on a eu certaines informations qui commencent à tomber, hein, sur voilà comment ça va se passer pour l'année prochaine. Déjà aujourd'hui, on a appris, enfin le comité d'organisation français a dévoilé à quoi ressemblerait la torche, la fameuse torche olympique qui va donc débarquer en France le 8 mai 2024 du côté de Marseille, et puis voilà, après elle fera le tour de la France pour arriver en juillet donc du côté de Paris. Donc voilà, alors évidemment c'est pas très radiophonique de vous le dire, mais voilà, c'est vrai que c'est une nouvelle torche qui est dévoilée. Toi, Cédric, qu'est-ce que tu en penses?
Je la trouve moche.
Tu la trouves pas très belle?
Ouais, je trouve que ça ressemble à un énorme suppositoire, enfin de,
eh oui,
de forme. Le concept, il est, enfin, il est compliqué, je trouve, à comprendre en fait dans les formes qu'il a voulu utiliser, parce que apparemment l'idée c'est qu'elle soit équilibrée,
ouais,
entre le haut et le bas,
ouais,
qu'elle soit symétrique. Il y a des espèces de petites vagues qui sont censées représenter la scène. Alors c'est bien, on met la scène en avant. Faut pas oublier
la scène a été beaucoup mise en avant,
ouais,
là,
je trouve aussi. Mais enfin, c'est ce que je trouve dommage, c'est que il y a quand même Marseille pour les épreuves nautiques. Il va avoir
Tahiti pour le surf. Ouais.
Donc voilà, je trouve ça un peu dommage quand on fait une présentation des JO de mettre en avant, ouais, la scène. Je pense qu'elle a rien. Le concept, je pense que voilà, c'est le mouvement de l'eau,
ouais,
qui a voulu être mis en avant. Mais voilà, enfin après. Elle est de couleur argente. Normalement, si j'ai bien compris, elle va être à quasiment 100% de matériaux recyclés.
Ouais.
Il y a, je sais, au moins, je crois, 2000 torches qui vont être faites.
Non, je crois justement 200.
Ou 200, je sais
en
plus.
En gros, c'est, ils ont voulu en produire beaucoup moins.
C'est ça, en fait. Oui, il y en a beaucoup moins parce qu'en fait, ils vont plus les réutiliser.
C'est ça.
Voilà. Donc, à voir. Après, bon, c'est qu'une vidéo qu'on a vue réellement. Je crois pas que dans la présentation officielle aujourd'hui, elle était sur place. À voir une fois qu'elle sera allumée, si c'est joli ou pas. Après, en soi,
ça reste une torche.
Ça reste, voilà, oui, ça reste juste le symbole.
Ouais. Symbole des Olympiques.
Après, on verra la prochaine étape, parce que ça va être la fameuse vasque.
Oui, ça va être.
C'est plus ça qui est marquant, je dirais, au final.
Oui, parce que c'est celle qui reste allumée.
Ça reste un peu, voilà, le symbole, voilà. Ouais.
Sinon, il y a eu deux autres nouveautés. On sait que le Club France va se tenir du côté de la Villette, et puis il y a un nouveau projet qui a eu lieu. C'est le projet du Champions Park qui a été présenté. C'est un lieu de célébration des athlètes. Voilà, avec pas mal de spectateurs qui peuvent venir également pour regarder notamment, les compétitions. Et voilà, c'est au Trocadéro sous la Tour Eiffel, donc enfin voilà, pas évidemment pas de sous-sous, mais sous les yeux de la Tour Eiffel, on peut dire ça comme ça, pour le Champions Park. Donc je sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Je sais pas si, enfin, c'est quelque chose d'assez
assez
novateur quand même.
C'est pas vraiment nouveau parce que ils l'ont fait en quelque sorte au dernier JO. D'avoir une zone comme ça où t'accueillais les champions en retour du Japon.
Non, mais oui, non, mais là c'est pour tout le monde apparemment. C'est en fait parce que c'est assez bizarre parce que on sait pas trop si c'est une fan zone ou vraiment un espace dédié aux athlètes pour célébrer ceux qui ont gagné les médailles. C'est assez flou de ce point de vue-là parce que je sais que à Londres c'était sur Hyde Park où il y avait un immense écran géant où on pouvait regarder les JO.
Ouais, mais ça, c'est plus une fan zone, du
coup.
C'est
ça. Ouais. Et donc, après, je sais pas si c'est consacré purement en fan zone ou justement purement pour célébrer les médaillés. Donc, on verra un petit peu ce qui se passe sur ce Champions Park.
Ouais, faudra voir si c'est bien gratuit aussi.
Mais voilà, potentiellement, ouais, ça peut être intéressant. Et puis, le Club France aussi, c'est toujours, de toute façon, Club France, ça reste
Club
quand
France,
même.
Club France, ça existe toujours, oui.
Ça reste quand même le lieu pour célébrer les victoires
mais
françaises.
C'est souvent plus réservé quand même aux athlètes, en fait. Le Club France.
Oui.
C'est vraiment, on va dire, le.
Bah, les médias, quoique, c'est quand même pour, enfin, c'est, pour avoir été à celui de 2012, c'est quand même aussi.
C'était accessible au public.
Ça, normalement, ça l'est. Il y a une certaine partie qui est prévue pour les spectateurs. Ça reste quand même un lieu où on est quand même vachement, on va dire, entre athlètes, entre journalistes, etc. Mais il y a une partie, je crois, dédiée au public, ouais, pour voilà mettre un peu d'ambiance et pour le coup célébrer les médaillés. Donc on suivra ça. On aura évidemment le temps d'y revenir la semaine prochaine dans l'émission dédiée. Mais ouais, on a.
Il y a le nouveau, si j'ai bien compris aussi le nouveau équipementier, enfin on va dire équipementier entre parenthèses qui a été annoncé pour les tenues de ouais. Aussi bien de défilés ou d'attente des.
Oui.
Des épreuves.
LVMH.
Ouais ouais. Donc c'est Louis Vuitton en fait. Qui prend la place, c'est un peu étonnant, je trouve.
Alors, je sais pas à quel point, j'ai pas vu l'info.
J'ai vu que c'était Louis Vuitton. Mais voilà, c'est.
Mais je sais pas sur quoi ils sont en particulier.
Apparemment, c'est sur les tenues des athlètes, tout ça.
Ah oui, carrément. Ouais.
Et c'est vrai que, historiquement, ça a souvent été.
Coq Sportif, Adidas,
ouais,
Nike.
Enfin, surtout le Lacoste et le Coq Sportif.
Oui, c'est vrai, voilà.
Donc, quand même bien œuvré pour le, ouais. Pour le milieu du sport. Donc là.
On verra ça.
Ça met encore une image un peu plus riche, bling, j'ai envie de dire. Oui, bling bling sur ces.
Bling bling à la française aussi, ouais. À côté, parce que ça reste une entreprise.
Après,
française.
Le problème, c'est. On verra s'ils vont produire les tenues pour tout le monde.
On verra.
Parce que, déjà, je sais pas si t'as déjà voulu t'acheter un polo de l'équipe de France quand c'est les JO de l'été.
Ça coûte.
C'était pas donné.
Bon, parce que déjà, Lacoste, faut y aller.
Ouais, il fallait mettre un petit 200 Giro Grand Max, mais.
Ah oui,
là, je veux dire, avec Vuitton. On va mettre le triple en
c'est
prix.
Ça s'habille fort. Sinon, pour un peu continuer sur cette vibe olympique, on va donner des résultats encourageants justement en vue de ces Jeux olympiques, avec notamment la natation et le Français Léon Marchand qui a signé une performance historique en remportant le 400 mètres 4 nages des championnats du monde qui se déroulent en ce moment au Japon. Et il a par la même occasion battu le record du monde de Michael Phelps, qui est quand même pas rien. Et voilà, lui qui vise encore d'autres médailles dans ces championnats du monde. C'est vraiment assez exceptionnel sa performance et c'est hyper encourageant pour la natation française au JO. Ça a été ça exceptionnel.
Ouais, parce que la natation a quand même besoin d'ordorer un peu son blason.
Bah, oui, il y a eu un gros creux.
Ouais,
ça,
ouais. Dernier JO, je crois que c'était quand même amélioré.
Avec Manodou qui était revenu.
Ouais.
Florent Manodou.
Il a été moins performant que certaines années, dans les grandes années.
Ouais.
Mais il y a eu une nette amélioration, mais c'est vrai que. Toujours mieux de commencer à se passer.
C'est évidemment surtout une grosse performance. Il sera un prétendant à une médaille d'or. Et puis sinon, médaille de bronze pour Maxime Brosset au niveau du 50 mètres papillon.
Bien que le record de Phelps tombe.
Oui, c'est
parce
vrai.
Parce que ça veut dire que techniquement, je ne sais plus quand est-ce qu'il les a pris exactement. Mais comme il y a eu la période où il y a eu des grosses controverses entre est-ce que c'était vraiment l'athlète ou sa combinaison
qui faisait le
résultat, en fait, là au moins on sait que maintenant les combinaisons sont interdites, on est revenu au slip de bain classique, enfin aux caleçons de bain, donc je pense que c'est quand même intéressant que tous ces records-là un peu controversés tombent comme ça, on voit un peu.
Ce qui n'en était quoi. Ouais. On va rester dans la piscine maintenant.
Ouais, c'est vu qu'il fait chaud en plus en ce moment.
Bah c'est voilà, grave. Parfait, on reste dans la piscine. Longtemps loin de l'élite mondiale du water polo, l'équipe de France masculine a réalisé l'exploit de rejoindre les quarts de finale du mondial. Une performance inédite depuis 1986 pour les Bleus. Même si les tricolores ont échoué contre l'Espagne à ce stade de la compétition, c'est quand même un parcours encourageant en vue des JO de Paris 2024, en sachant que les joueurs visent une médaille dans un an à Paris. C'est vrai que on le disait en off, mais c'est pas la France, c'est pas forcément une nation de water polo, mais là on revient quand même dans le top 8 mondial, quoi. C'est on se place bien juste avant les Jeux Olympiques.
Ouais, c'est une bonne préparation, je pense, pour les JO, même si bon, ça voilà, il y a quand même un an, quoi. Attendre, ouais. Mais je pense que ça, c'est pas une équipe, je pense, qui doit bouger tant que ça. Donc, je pense que voilà, ça va permettre de bien travailler en vue des JO. Et puis, c'est toujours intéressant aussi de voir
ouais.
Des nouvelles équipes monter un peu
bien sûr,
dans le quota du sport français.
Quoi, et qui pourraient nous surprendre sur ces JO de Paris 2024.
Nous faire un peu comme les volleyeurs.
C'est ça, à une époque.
Les volleyeurs, à une époque où, voilà.
Ils sont un peu.
On les entendait, enfin, on les connaissait quasiment pas.
Et ils sont arrivés nulle part.
Ils ont tout récupéré d'un coup. Donc, on leur souhaite la même chose, quoi.
Exactement. Et puis enfin, alors que les championnats du monde d'escrime ont commencé aujourd'hui à Milan, l'équipe de France a décroché un premier titre dès la première journée par l'intermédiaire de Marie-Florence Candasamy. En épée, les Bleus visent d'autres médailles à venir et espèrent faire aussi fort que l'an passé avec 4 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. On va passer maintenant au football avec la Coupe du Monde féminine qui bat actuellement son plein du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, le début de compétition ne se passe pas comme prévu pour les joueuses du nouveau sélectionneur des Bleus, Hervé Renard. À l'occasion du premier match contre la Jamaïque, les Françaises ont rendu une triste copie avec un match nul 0-0. Pire encore, la capitaine de l'équipe, Wendy Renard, s'est blessée au mollet durant la rencontre et est incertaine pour la prochaine rencontre contre le Brésil samedi prochain. Ce sera à midi. La défenseure de l'OL vient s'ajouter aux nombreux pépins physiques rencontrés par les joueuses de l'équipe de France. Alors, 2 jours avant le match contre la Jamaïque, la défenseure De Almeida déclarait forfait, tandis que l'ailière gauche, Selma Bacha, était sortie touchée en amical contre l'Irlande. Les deux joueuses ont dû reprendre ont quand même pu reprendre le chemin de l'entraînement, mais rien n'est sûr pour la suite de la compétition. Et évidemment, encore avant ça, Amandine Henry, Marie-Antoinette Catoto et Delphine Cascarino avait aussi déclaré forfait pour la compétition. On verra si Hervé Renard peut trouver quand même un 11 capable de déstabiliser les Brésiliennes samedi prochain, en sachant que les partenaires de Marta ont cartonné les Panaméennes 4-0 pour leur premier match. C'est vrai que tu as un peu regardé le premier match de ton côté.
Ouais, j'ai l'impression que c'était très compliqué, très dur de trouver les solutions.
Ouais, c'était un match très fermé.
J'ai l'impression qu'elle jouait un peu rude.
Ouais, c'est un match très fermé, ouais, quoi. Ouais, ça jouait défensif.
Ce que j'en ai vu, voilà, c'est il y a quand même eu pas mal de joueuses des deux côtés au final qui sont restées pas mal longtemps à terre.
Ouais.
Toujours un peu étonnant, quoi. Enfin, surtout pour un premier match, on essaye quand même de se conserver, mais après, ouais. Je sais plus, même toi, tu savais plus trop si le terrain, il était humide ou pas, enfin, parce
que bon. Alors, on sait qu'il y a eu des intempéries, voilà, ces derniers jours, du côté de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, parce que c'est l'hiver là-bas, en fait.
Ouais,
c'est l'été chez nous, mais c'est l'hiver là-bas. Mais oui, ça va être intéressant de savoir si l'équipe de France est prête pour un gros défi.
Ah, c'est ça, c'est
avec le Brésil.
Pas clairement, c'est compliqué le.
Ah, bah oui.
La chose, quoi. Enfin,
bah, disons que là, il y a. Alors, je sais pas s'il y a plus droit à l'erreur mathématiquement, mais en tout cas, oui, pour avoir au moins un adversaire potable en terminant première, il y a pas le droit à l'erreur, il va falloir battre les Brésiliennes.
Si tu vois le résultat du Panama contre le Brésil et après qui joue contre la Jamaïque. Ouais. Les Jamaïcaines, elles ont l'air de bien défendre. Ça risque de faire encore un match nul, je pense.
Faudra voir.
Enfin, si on perd derrière, on se retrouve bon dernier du.
C'est ça.
Non, on se retrouverait à égalité, mais tout dépendra de la différence de but.
Ouais, ce serait.
Donc, Je pense que ouais, non, c'est déjà un match coup près.
Bien sûr, pour l'équipe de France, match décisif donc samedi à midi pour supporter les Bleus. On va rester au football avec l'actualité qui tourne aussi autour du mercato qui commence un petit peu à s'emballer côté français. Alors surtout avec un très bon mercato du côté de Marseille, Longoria fait des merveilles et a enregistré les signatures de Kondogbia, Renan Lodi, Aubameyang ou encore Ismaël Assar. Donc un très beau mercato du côté de Marseille. Et puis au PSG, le bras de fer entre la direction et Kylian Mbappé a pris une nouvelle dimension ce week-end avec cette non-convocation du champion du monde français pour la tournée du club parisien au Japon. L'attaquant des Bleus est sommé de prendre une décision, prolonger ou partir dès cet été avec une indemnité de transfert. Le PSG écoute désormais les offres pour vendre Mbappé, notamment celle de l'Arabie Saoudite, en attendant que le Real se manifeste. Le club saoudien d'Al Hilal était prêt à mettre 1 milliard d'euros pour obtenir les services du joueur sur la saison prochaine. Alors, 300 millions d'euros d'indemnité de transfert et 700 millions pour le salaire annuel de Mbappé. Évidemment, c'est du jamais vu. Même si des rumeurs arrivent aussi dans d'autres clubs, Kylian Mbappé ne semble pas enclin à renoncer à son plan qui consiste à toucher le plus d'argent tout en restant en Europe. C'est vrai que c'est une situation où Kylian Mbappé semble déterminé à partir libre en 2024, à toucher ses primes avec le PSG en restant sur cette saison et à négocier une belle prime à la signature du côté du Real. Tandis que le PSG, eux, ils veulent avant tout le vendre pour toucher un peu d'argent.
Ouais, ça devient ridicule. Parce que même le PSG, en fait, au final, est pas clair sur ses intentions, quoi. Ils sont prêts, limite, je fais une proposition de leur acheter un euro, demain, ils sont prêts à l'accepter, quoi. Tu sens juste qu'ils veulent récupérer de l'argent juste pour le transfert et pas...
Symboliquement, pour toi.
Ça devient n'importe quoi. Enfin,
pour toi, ils n'auraient pas dû agir de la sorte.
C'est au départ qu'ils sont plantés. Hein.
Oui, ça. Par contre,
fallait pas annoncer. Enfin, ce que on en revient à la même chose qu'on avait déjà dit. C'est sur son contrat. C'est quasiment sûr que c'est noté contrat jusqu'à 2024.
Ah oui.
Plus un.
Ah oui, ça.
Et pas.
Et en plus,
et
plus
pas comme eux, ils ont annoncé prolongation jusqu'à 2025.
Je pense que c'est lui qui décide en plus.
C'est ça. Et pour moi, enfin, il a été honnête. Il a dit, même avant le début du mercato avec Sarah Electre, je plongerai pas.
Ouais.
Donc, voilà. Ils auraient dû.
Toi, tu places plutôt du côté de Mbappé.
Bah, en tout cas, par rapport à la procédure, on va dire, oui. Enfin, il est tout à fait dans son droit.
Ah, par contre, oui, il est dans son droit.
Il est dans son droit, et puis,
moi, je pense quand même.
Faut pas oublier, c'est qu'à un moment, le PSG, enfin, on va dire, c'est même plus le PSG, c'est le Qatari, et puis,
oui.
Nasser, faut pas oublier, c'est qu'il y a des lois du travail en France.
Oui, ils peuvent pas le mettre sur le banc parce que c'était ça dont
s'il
était question à l'époque.
Le
mettre sur le banc toute la saison. Ouais. Et Mbappé, lui, était déterminé à notamment rester, quoi qu'il en coûte, c'est notamment ça. De rester sur le banc.
Il y a rien. Par contre, s'il décide de le mettre 100% à l'écart, il a tout à fait le droit de se retourner contre eux. Enfin,
légalement, oui.
Légalement,
Et puis ça, c'est vrai que
ça sent en fait le coup de pression, tu vois, juste.
Ouais, c'est ça.
Ton contrat, c'est ton contrat, mais c'est nous qui décidons de ce que tu fais. Donc en gros, tu signes pas un contrat, c'est. Enfin, tu.
D'un autre côté, c'est vrai qu'Mbappé aurait pu être quand même plus, comment dire, plus clair sur ses intentions. Il aurait pu prolonger et être altruiste et donner un peu d'argent au club.
Ouais,
mais s'il voulait absolument jouer.
Après, j'ai envie de dire, le PSG, est-ce qu'il a besoin de cet argent-là, réellement?
Ça, c'est une autre question,
question.
Moi, je cherche pas à défendre le PSG, parce que le PSG, c'est vraiment l'erreur originelle, si tu veux.
Proposer
un tel contrat avec de telles responsabilités et sur un contrat sur une si courte période, ça reste ridicule, surtout avec ces sommes d'argent. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'Mbappé pourrait être plus clair dans son choix. Et aujourd'hui, moi, ce qui me dérange un peu avec Mbappé, c'est qu'on sent, et on a avec toutes ces déclarations qu'il a pu faire, on sent sincèrement que sa démarche et le scénario qu'il imagine, c'est que pour l'argent. Puisqu'il veut rester au club, alors qu'il a déclaré que le club avait un plafond de verre et que c'était pas le meilleur club pour lui pour gagner la Ligue des Champions. il y a le Real qui potentiellement peut être intéressé et il préfère quand même rester au PSG. Et on sait très bien qu'aussi ce scénario où il reste au PSG et il est de part libre, ça va lui rapporter de l'argent sur son salaire qui est démentiel à Paris, plus des primes, etc., plus une prime à la signature au Real. Donc c'est ça qui me dérange un peu.
C'est
que
peut-être plus simple de partir comme ça, en fait. Le problème, c'est que c'est le salaire. C'est le salaire. Et en fait, s'il part libre, c'est plus simple de financer le même salaire que si tu dois payer les indemnités.
Ouais, non, bah après voilà, c'est toujours compliqué
c'est
parce que
c'est
de toute façon, le PSG, si Kylian Mbappé s'en va là avec une somme d'argent, il récupère donc l'argent du transfert et il récupère potentiellement, ils économisent en tout cas le salaire de Mbappé sur l'année, qui est quand même assez important. Donc on est sur une quand même belle économie, même si ça reste les Qataris qui cherchent aussi à racheter Manchester United, donc il y a peut-être des économies qui vont être faites de ce côté-là. Et donc, oui, c'est une vraie question. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un vrai débat sur la faute à qui. Je pense que c'est clairement la faute des deux. Moi aujourd'hui, parce que Mbappé, pour être plus clair, et Mbappé il est pas naïf, il sait que à un moment donné le football, voilà, quand c'est le top 2, top 3 meilleur joueur du monde, tu pars pas gratuitement, tu vois, dans un club. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire.
Dans la
à un moment
logique,
donné, c'est le foot business, il le sait très bien.
Dans
Mbappé.
La logique, non. Mais il y a jamais rien qui l'a.
Il y a
aucune règle, en fait.
Il y a rien qui l'oblige. Ça, je suis
tout,
sûr.
Tout le monde l'a fait, mais ouais, sur
la valeur humaine.
Oui.
En fait, le côté, en fait, le PSG a tellement fait pour lui, lui a mis des contrats tellement forts, lui a donné de l'importance dans le club, dans le projet sportif également. Et là, aujourd'hui, lui, il voudrait, prendre beaucoup d'argent. Il serait prêt même à ne pas jouer. Donc, c'est-à-dire qu'il fait une croix quelque part, entre guillemets, sur sa carrière sportive. C'est quand même assez fou. Et surtout, voilà, il est, pour moi, il fait le choix du non sportif, enfin du pécunier avant le sportif, selon moi.
Après, tu sais, enfin, pour lui, faire une année sur un banc, ce sera de toute façon que 6 mois, parce que de toute façon, il sera libre de signer à partir de janvier au mercato d'hiver.
Bah non, parce qu'il reste toujours son contrat.
Oui.
Non, c'est
oui, mais son contrat.
L'hiver, c'est les négociations qui commencent.
Oui.
Le mais contrat, il est jusqu'en juin 2024.
Oui, mais donc, s'il joue pas, tu fais l'offre là, mercato d'hiver, t'es sûr de l'avoir pour la saison d'après.
Oui.
Il aurait fait 6 mois sous le banc, mais derrière, il peut aller s'entraîner librement.
Comme ça, après, ça joue.
Bon, tu vois.
Non, parce que techniquement, son contrat, il va être encore jusqu'au jour. Ça va être un joueur du PSG jusqu'en 2024.
Ouais, mais quand c'est comme ça, tu peux. Enfin, ils auront leur argent si tu veux quelque part. Et
bon, on verra ça. Mais c'est un débat intéressant.
Après, tu vois, dans le cas où il joue pas, je vois mal Deschamps quand même ne pas le prendre en équipe de France.
Surtout qu'il a deux grosses compétitions à jouer. Il y a l'Euro et les JO. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'il serait prêt à se priver de football alors qu'il a deux grosses échéances qui l'attendent.
Après les JO, bon, je pense que. C'est quasiment un qui sera dedans, hein, de toute façon.
Bah oui, mais d'un côté, il faut qu'il arrive en forme, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais il sera en forme.
Ouais, même s'il joue pas.
Même s'il joue pas, tu sais, enfin, je pense que c'est quand même un gros travailleur de base.
Ouais.
Donc il fera le taf à côté, hein, tu sais, t'as pas besoin d'être au centre du PSG pour t'enfermer. Par contre, ce qui a été mis en avant, c'est que la fédération apparemment va faire gaffe à ça.
Ouais.
C'est les fameux, comment ils appellent ça, là? House,
les lofts,
voilà, ouais. Ils vont faire grave attention à ce que ça soit bien respecté et tout, ouais. Parce que
c'est encadré, que ça.
Ouais,
c'est...
ouais, parce que Paris est quand même le premier. Enfin,
en gros, pour les gens sous contrat, ils doivent absolument, je crois, pouvoir s'entraîner.
Ouais,
conditions.
Donc, à voir, mais
c'est un vrai feuilleton en tout cas.
Ouais, mais enfin, après c'est Paris. Hein. Tu regardes, ils re-signent toujours. Regarde Verratti, ils l'ont signé, et derrière, ils veulent le vendre.
Ouais, c'est
ça. C'est ça aussi, je pense qu'à un moment, Mbappé, il a peut-être pigé ça, il a dit, c'est bon, on n'est pas que de la marchandise.
Ouais.
Ça doit aller dans les deux sens. On sait qu'il y a eu des choses aussi qui devaient être mises en place pour la saison passée, qui n'ont pas forcément eu lieu. Il y a eu beaucoup de choses, donc je pense qu'on n'a pas toute la vérité, en fait, sur cette affaire-là.
Ok. Eh bien, on suivra ça, évidemment, pour savoir si Mbappé jouera du côté... du PSG, de Madrid, ou peut-être un autre club européen, ou même peut-être l'Arabie Saoudite.
Il y en a qui l'ont envoyé à Barcelone.
Alors. Et c'est vrai, effectivement. Barcelone qui n'a pas un rond, mais bon, qui va recruter Mbappé. Bon, on va passer maintenant au cyclisme avec la fin du Tour de France qui a eu lieu donc dimanche sur les Champs-Élysées. On va faire un petit bilan au niveau du palmarès. C'est Jonas Vingegaard évidemment qui est le maillot jaune, le grand vainqueur de ce Tour de France 2023, le doublé pour le Danois de la Jumbo-Visma après l'édition précédente. Il devance assez largement Tadej Pogacar, le Slovène de UAE Emirates, avec 7 minutes 29 d'avance quand même, alors qu'à une époque il se tenait en quelques secondes il y a une semaine encore. Et à la troisième place, on retrouve aussi un cycliste de UAE Emirates avec Adam Yates, le Britannique, qui termine à 10 minutes 56 du maillot jaune.
Côté Pogacar qui s'est complètement effondré.
Ouais, sur la
après le contre-la-montre, hein, l'étape du lendemain. Bon, il chute en plus.
C'est ça.
Quasiment au départ et après il arrive à remonter dans le groupe maillot jaune. Pour se faire décrocher.
Il a complètement. Alors, Pogacar, effectivement, pour raconter, donc, la semaine dernière, on avait vécu une preuve assez folle où Vingegaard avait fait un énorme chrono et avait pris 1 minute 48 d'avance sur Pogacar. Et là, effectivement, le lendemain, Pogacar est tombé et a perdu, je crois, près de 5 minutes de retard.
Ah ouais, alors qu'il était, il avait programmé limite cette épreuve-là.
Ouais, ça.
Pour aller chercher normalement de base une victoire. Et là, ça serait transformé en contre-la-montre pour...
Ouais. Pogacar a quand même décroché une deuxième étape, donc c'était samedi, du côté du Jura. Et c'est d'ailleurs dans cette étape qu'on a pu voir, je sais pas si t'as vu les images complètement folles,
pour
du virage Pinot. Thibaut Pinot avec des champs complètement fous. Et puis surtout Thibaut Pinot qui arrive à ce virage en tête, seul en tête de cette étape. C'était complètement dingue à vivre. Malheureusement, il n'a pas pu gagner l'étape. Il termine, je crois, cinquième ou sixième. Mais c'est Pogacar qui s'est imposé devant Vingegaard.
C'était plus ou moins prévu. Pinot, il essaye de faire un coup sur cette étape-là parce qu'on
était à domicile.
On était dans sa région, on était pas loin de chez lui, tout. Donc
et puis le groupe qui était là, c'était complètement fou.
Et ça a continué, mais même jusqu'à Paris. Hein, la folie.
Pour rappel, c'est son dernier tour. Hein, donc ça reste très émouvant pour celui qui nous a beaucoup fait rêver sur ces tours de France. Justement, avant de revenir sur les autres maillots honorifiques, on va revenir sur les Français. Alors, il n'y a qu'une seule victoire d'étape française, c'est Victor Lafay de Cofidis lors de la deuxième étape, et rien après ça. C'est vrai que ça reste quand même une petite déception, même si on a eu notre victoire française. Et puis, David Gaudu, qui termine dans le top 10 à la 9e place, comme également Guillaume Martin, qui termine 10e. Donc, il n'y a pas eu forcément de grosses performances des Bleus sur cette édition, même si Pinot nous a fait rêver sur cette 20e étape. Au niveau des maillots, Jasper Philipsen remporte le maillot vert avec ses 4 victoires d'étape, le Belge de chez Alpecin. Tadej Pogacar est évidemment le maillot blanc pour la 3e fois, je crois que 3e ou 4e fois consécutive. Et puis enfin, c'est l'Italien Giulio Ciccone qui remporte le maillot à poids de meilleur grimpeur, lui qui évolue chez Lidl Trek. On va parler très rapidement du Tour de France féminin qui se déroule actuellement, qui a démarré de Clermont-Ferrand dimanche et qui se terminera du côté de Pau. La première victoire, elle était celle de Kopecky, la Belge, qui s'est imposée sur cette première étape. Le lendemain, c'est Lippert, l'Allemande, qui l'a emportée. Et aujourd'hui, à Montignac, c'est au sprint. Vibes, alors je sais pas comment on prononce, la néerlandaise qui l'a emporté. À noter que c'est déjà 2 victoires d'étape sur 3 pour CD Works, l'équipe qui a dans ses rangs Kopecky et Vibes, et justement c'est Kopecky qui est toujours devant au classement général avec 55 secondes d'avance sur Lippert. Et puis au niveau des Français, ça réussit pas forcément. On a quand même dans l'équipe FDJ Suez, Evita Muzic, la Française qui est 14e au général.
Leur envoyer à nouveau Jenny Longo.
Peut-être. Elle se fait un peu vieille, je pense quand même.
Ah mais 60e titre ce week-end hein, pour elle.
Elle a encore
Ouais, elle performe encore. Ouais, ouais, elle est devenue championne de France en catégorie Master 8, donc c'est la catégorie des 65 à 69
ans. Ah oui.
Et elle a encore décroché un titre voilà, de championne de France.
Ouais.
Donc comme quoi, elle est encore toujours là, tu vois.
Voilà, on termine sur le vélo et puis on termine surtout l'émission sur la Formule 1. C'était le Grand Prix de Hongrie, je dis pas de bêtises Cédric.
Ouais, c'était Hongrie.
Avec la petite surprise quand même dans le week-end, c'était Lewis Hamilton qui a terminé en pole. On en a un petit peu parlé. Et finalement, c'est Max Verstappen qui l'a emporté sur le Grand Prix. Et justement, le Britannique qui a lui terminé quatrième de ce Grand Prix. Rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, rien à dire sur ce Grand Prix. Ça a été ennuyeux ou pas du tout?
Bah, ce que j'en ai lu, ouais, ça avait pas l'air d'être passionnant. Bon, McLaren qui reconfirme avec la deuxième place de Lando Norris.
Exactement. Et troisième place pour Sergio Perez de Red Bull.
Et ce qui est un peu inquiétant, c'est pour Alpine. Alors, les deux voitures, voilà, qu'on vient souci,
qu'on crachait
au démarrage, quoi. Donc moins en forme les Alpines actuellement. Apparemment,
c'est
il y aura
pas fou.
Le week-end prochain, je crois normalement.
Ah, pour l'instant, c'est
à Spa, il y aura des améliorations.
Ouais. Au classement général, c'est 10e et 12e pour Ocon et Gasly de chez Alpine. Et puis, bah, sinon, au classement général, c'est toujours les Red Bull qui dominent avec Verstappen très largement et Sergio Perez suit juste derrière deux autres champions du monde avec Fernando Alonso et Lewis Hamilton.
Et Alonso qui pourrait perdre sa place ce week-end.
Bah, il y a que 6 points entre les deux, donc ça va être un duel quand même intéressant.
Ils annoncent encore peut-être de la pluie à Spa en Belgique ce week-end, donc on sait ce que ça donne la pluie à Spa.
Ça peut.
Il y a quelques.
Ça peut être dangereux.
Il y a 2 ans ou l'année dernière, le Grand Prix avait été annulé à cause de ça, quoi.
Donc évidemment, on suivra ça. On va vous laisser avec la suite des programmes. On va être sur une petite heure. Ah non, c'est l'imaginaire qui nous suit juste après. On va leur laisser la main. Et puis nous, on se redit à la semaine prochaine pour une émission spéciale Jeux Olympiques de Paris 2024. Et on vous souhaite surtout une très bonne soirée sur Radio G.